Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, dimanche d'élection, hein, pas de politique au micro, c'est la loi. Mais tout de même une question essentielle.
En quoi peut-on croire encore ? Je sais, la formule peut donner le vertige, surtout à l'heure du petit-déj. Il n'empêche, en quoi peut-on croire encore ? C'est la question que le JDD pose tout au long de cet été. Série d'entretiens avec écrivaines et écrivains. Et le premier à se frotter à l'exercice n'est pas n'importe qui. C'est le prix Goncourt 2020, Hervé Le Tellier. Le succès stratosphérique de son roman Les Anomalies et un aveu, je suis d'un rationalisme désastreux. Parce que oui, quand on parle de croyance, la religion s'invite. Hervé Le Tellier raconte « J'ai été viré du catéchisme le jour où j'ai demandé « Si Dieu est tout-puissant, pourrait-il faire qu'il n'existe pas ?» J'avais 10 ou 11 ans, le prêtre a cru que je me moquais de lui, alors que j'étais très sérieux. Le Tellier est tolérant malgré tout, du moment qu'on me laisse penser... « Je laisse tout le monde croire, dit-il. C'est pas mal. » Il ajoute « Il y a des individus qui ont une tendance naturelle à désirer que quelque chose soit plus grand que nous. Je ne leur reproche pas. Après tout, c'est rassurant. » Vous l'aurez compris, il y a de l'ironie, à peine, dans cette entrevue. « J'aime bien l'espèce humaine. Ça va me faire de la peine quand elle va disparaître. Et moi, j'aime bien Hervé Le Tellier, ce matin dans le JDD. »
Et après donc l'anomalie de Le Tellier, la possibilité du Nil.
Oui, référence à Houellebecq évidemment, sauf que je vous parle du Nil avec des vaches dessus. L'île d'Ouessant dans le Finistère. Les vaches, elles sont une quinzaine, appartiennent à Marie et Thomas, couple de paysans venus de la Drôme avec valises et enfants. C'est une aventure à contre-courant que vous raconte Ouest France ce matin. À contre-courant parce que ça n'a l'air de rien, mais des troupeaux insulaires, il y en a de moins en moins. Il y a un siècle, les îles de la façade atlantique produisaient 90% de leurs besoins alimentaires. Désormais, il faut importer 90% de la nourriture. L'autonomie a disparu, constate Ouest France. Alors, sur l'île d'Ouessant, monsieur le maire a lancé un appel au continent. Venez donc changer de vie. Chiche, ont répondu Marie et Thomas. Leurs bêtes ont fait des 3 heures de traversée, pas évident, mais les voici bien installées. Les vaches aux quatre vents. C'est le joli nom de leur ferme bio à taille humaine. Ça a l'air chouette lors de la traite face aux éléments. Et personnellement, elle me fait beaucoup de bien ce matin, cette photo double page dans Ouest France. Des vaches paisibles, vues du ciel, entourées de bleu et de vert, avec les toits d'ardoise, forcément, qui sentent bon le Finistère. D'autres îles dans l'actualité, plus vastes. Australie, Royaume-Uni, vous me voyez venir, c'est le variant Delta, oui, c'est moins réjouissant. Et pour le JDD, la question n'est plus de savoir s'il va déferler sur la France, mais plutôt quand. De cluster en cluster, il gagne du terrain. Une modélisation nous dit qu'il pourrait représenter 90% des cas en Europe d'ici la fin du mois d'août. Serait-ce l'été du variant indien, s'interroge la Provence. Le Parisien aujourd'hui en France nous montre une image de Sydney, ville déserte sous cloche. Sauf que là-bas, c'est la stratégie du zéro Covid. Une spécificité, constate un professeur sur le site du Figaro. Un confinement drastique, local, en principe rapide. Dans une partie du monde où les cas de Covid ont été bien moins nombreux que par chez nous, difficilement comparable. Pour nous autres, c'est surtout le vaccin qui fait office d'arme numéro un, répètent les scientifiques. Si tout le monde y va, la vague peut se transformer en vaguelette, espère le professeur Amouyel au CHU de Lille. À condition aussi d'être plus prudent cette année que l'été dernier. Les Français doivent comprendre que l'avenir est entre leurs mains, dit-il. Et j'ajoute que ses mains sont pleines de gel hydroalcoolique, évidemment.
Enfin, cela dit, dans l'ensemble, nous sommes plutôt raisonnables et disciplinés, non ?
Absolument, Eric, vous avez raison. Rien à voir avec l'année 1904. Je vous parle maintenant de la deuxième édition à l'époque du Tour de France. Et l'épreuve fut pour le moins violente, maudite, chaotique, vous raconte ce matin le Parisien aujourd'hui en France. Avec des coureurs qui se faisaient agresser au bord de la route par des bandits de grand chemin. Avec du public qui n'hésitait pas à laisser passer son favori. Puis à lancer des pierres, des clous pour bloquer le reste du peloton. Un peloton où certains tricheurs prenaient discrètement la voiture ou le train. Ça existait déjà en 1904. À tel point que cette année-là, c'est le 5e du classement général qui sera déclaré vainqueur sur tapis vert. Il s'appelait Henri Cornet, 19 ans seulement. Julian Alaphilippe, lui, en a 10 de plus. Alaphilippe à la folie, omniprésent à la une de vos journaux ce matin. Et ça, messieurs, dames, c'est pas du tapis vert, c'est du maillot jaune. Je termine avec un autre exploit. Je vous en parlais hier dans Corse Matin, le pari d'un athlète de l'extrême, Rambert Santelli, qui voulait battre le record du mythique GR20. Eh bien, il l'a battu, nous dit le journal, pulvérisé de 41 minutes, 30h25 pour parcourir 180 km de rocailles, de chaleur, de dénivelé. Infini respect. En Corse, je crois qu'on dit respect tout, et désolé pour l'accent.
Respect pour ce parcours du GR20, pas facile du tout. Merci Jean-Philippe Ballas et à la semaine prochaine.